Retour au lavoir aujourd'hui pour continuer à faire mousser les esprits. Autour de la table, Lucie qui nous est revenue d'Alsace, Laura qui pour une fois ne travaille pas, Manon qui, entre deux pensées à ses chats, est plus ou moins là. Encore un peu de linge sale à rattraper, avec toujours une bonne louche de vinaigre pour aborder les tâches les plus tenaces et quelques gouttes d'huiles essentielles de lavande pour supprimer les mauvaises humeurs. Aujourd'hui, on s'aventure sur le terrain vague et vaste de l'économie. Puis quand même, on parlera un peu d'amour aussi. On ne peut pas s'en empêcher, l'amour est partout ces temps-ci. Et je ne parle pas de la Saint-Valentin, mais des couples de tourterelles qui flirtent dans mon jardin. Pour parler d'amour, on a choisi de vous lire quelques extraits de « Ça raconte Sarah », un roman de Pauline Delabroix-Allard paru en 2018 aux éditions de Minuit. Il parle d'un amour entre femmes dit par une femme. Revenons-en à l'économie. Chacune de nous l'a déjà entendu, on l'a même entendu souvent. Quand on vendait dans une boutique ou dans un dîner de famille, on l'a entendu le tonton qui d'un coup dit « Ah les femmes, ça coûte cher ». Regardez comme à chaque Saint-Valentin, monsieur s'arrache les cheveux pour trouver un cadeau qui pourrait plaire à madame. Un cadeau à sa valeur, donc un cadeau cher. Quel cercle vicieux! Les femmes coûtent cher, et comme on veut leur offrir des cadeaux à leur juste valeur, on leur offre des cadeaux chers, donc elles augmentent de valeur d'année en année, donc les cadeaux coûtent plus cher d'année en année. Et c'est ce que je crois, ils appellent l'inflation. Voilà comment on apprend l'économie avec tonton. Les femmes, ça coûte cher donc. Entendu, ça coûte cher la féminité et tout ce qui contribue à la performer. Les exigences de madame, les bijoux, les beaux habits, les produits de beauté, etc. Et si on se posait la question dans l'autre sens? Et si on renvoyait la question à ces messieurs? Laissons tonton parler tout seul dans son salon et posons-nous la question du prix de la virilité. Dans une société où on inculque aux petits garçons de façon systémique depuis le plus jeune âge, par les jeux et les représentations, que le genre masculin rime avec virilité et que virilité rime avec prise de risque, voire violence, il est légitime de se demander quel est le coût sociétal de cette prétendue virilité qui semble encore et toujours être l'indice de performance du genre masculin. Pour tonton qui dirait « Non, c'est pas vrai, vous mentez, personne ne nous apprend à être plus méchant que vous », ça s'appelle la socialisation différenciée et c'est entre autres ce qui explique que la population carcérale est composée à 97% d'hommes et que non, ce n'est pas un problème de testostérone. La question du coût de la virilité à la société française, la chercheuse Lucille Peytavin se l'est posée et nous la partage tout au long de son livre intitulé « Coût de la virilité ». Elle y montre combien la société française gagnerait, en termes économiques, mais surtout en termes de bien-être, à désapprendre une fois pour toutes le concept de virilité. C'est un livre dont, Lucie, tu avais envie de nous parler aujourd'hui. Mais avant ça, ne parlons pas liberté ni égalité, mais bien fraternité, c'est-à-dire comment certains hommes se donnent des conseils entre eux pour réussir à choper quand ils n'ont pas la tchatche. Pour nous, Laura a mené l'enquête. Elle s'est abonnée à la masterclass de Quentin GT, expert en séduction, qui livre des conseils à des hommes introvertis pour réussir à séduire les plus jolies filles. Laura, on t'écoute.
Alors déjà, merci de m'accueillir à cette table. Enfin, je profite de cette pause loin de la boutique où je travaille, loin des pieds et des chaussures par centaines, pour vous présenter une petite chronique sobrement intitulée « Masterclass ». Enfin, mes amis, il était temps pour moi de vous partager cette perle perdue du net, cette vision venue hanter mon feed Facebook, alias le réseau des grands oubliés où quelques survivants persistent à dégainer leurs opinions, mais surtout leur savoir légendaire, durement acquis après des années de sagesse et de méditation dans les steppes mongoles, j'ai nommé les coachs de développement personnel. Alors je vous vois venir et je vous arrête tout de suite. Oh oui, cette chronique aura des allures de déjà-vu, mais que voulez-vous, je ne m'enlace pas de ce juteux marché des bons conseils qui vendent du rêve. Je vais donc vous présenter cette pépite du nom de Quentin GT. Alors Quentin, si tu m'entends, j'espère que tu passeras un bon moment, tout comme moi, devant tes 45 newsletters qui s'empilent dans ma boîte mail. Quentin, malheureusement pour toi, et pour moi, tu es apparu dans mes publicités Facebook, sur mon vieux compte doté d'un nom fantaisiste que j'utilise pour les quelques réticents à WhatsApp, SMS, boîte mail ou encore pigeon voyageur. Première vision de rêve que tu m'offres, la photo d'une femme blonde, recouverte d'une chemise trempée, sortant de la mer telle une sirène égarée, avec un paragraphe introductif rempli de sagesse.
Quand on est un homme introverti, voire un poil casanier, et qu'on préfère de loin le calme et la solitude aux soirées bondées d'inconnus, on est vite amené à se demander comment on va faire pour rencontrer des femmes célibataires de façon assez régulière, sans forcément utiliser les applications en mode bourrin. Le pire dans tout ça, soyons honnêtes, moins on fait de rencontres, moins on a l'occasion de tester de nouvelles compétences sociales. Plus on a le sentiment de ne pas être en contrôle de son avenir sentimental. Stop ! J'en ai assez de voir des hommes introvertis, intelligents, sensibles et sympas souffrir à cause de leur manque de sociabilité. Pour connaître ma méthode contre-intuitive, que j'utilise avec tous mes clients introvertis, pour les aider à relancer leur vie sentimentale et trouver une fille bien, en à peine quelques mois, il vous suffit de réserver votre place ici. lenouveaumale.com/masterclass. Pardon. Ah, et c'est gratuit pour une durée limitée.
Quentin, que dire ? Je voudrais d'abord te remercier du don que tu nous fais là pour une durée limitée, parce que la charité, ça va 2 minutes. Je me suis permise de corriger la ponctuation aléatoire de ton texte pour lui redonner une profondeur. Analysons ensemble ces quelques lignes brèves mais transcendantes. Moins on fait de rencontres, moins on a l'occasion de tester de nouvelles compétences sociales. Car oui, c'est un skill, comme on dit dans la Startup Nation, d'utiliser les autres pour exceller dans sa compétence sociale. Moi-même, j'ai développé ce skill au plus haut niveau après quelques pintes. J'ai débattu de la place de la femelle dans l'hémicycle des gouttières du quartier avec un chat errant à 4h du matin. Oui, Quentin, stop, halte, suffit de souffrir en voyant ces hommes incapables de nous charmer autour d'un mojito amer. Dis-nous donc quelle est cette méthode contre-intuitive ? Et je me permets de définir le terme contre-intuitif qui induit de ne pas écouter ses sentiments mais de raisonner de façon intelligible et réfléchie. Dis-nous comment ne pas écouter nos sentiments et aborder froidement autrui, cet être humain encore inconscient du pouvoir de la contre-intuition, afin de disséquer son âme de façon intelligible et réfléchie. Quentin, moi, j'ai envie de te faire confiance, comme tous ces grands esprits dans les commentaires à qui nous allons rendre hommage aujourd'hui. Mathéo te demande poliment s'il peut griller toutes les étapes à travers cette réflexion intelligible et réfléchie.
On peut avoir la fille de la photo à la place de votre séminaire ?
Tu le remets gentiment à sa place par un mouvement très professionnel.
Malheureusement non, il faut passer par la masterclass, smiley qui cligne de l'œil.
François Gilbert, un être exigeant qui n'est pas satisfait de ta présentation, réclame des éclaircissements sur le sujet de ta thèse.
Intéressant. Pourrais-je avoir une idée du contenu ? Comme par exemple, quels sont les axes directeurs ? En gros, les titres des chapitres. Hein. Je me doute que vous ne faites pas ça gratuitement. Car je cherche à attirer l'attention d'une belle.
Sache que tu lui réponds par un mantra mystérieux qui risque de le dérouter.
Le contenu se trouve dans le contenu, qui est bel et bien gratuit. À vous de jouer.
Je prends mon courage à deux mains, clique sur le site au doux nom de Nouveau Mâle et décide de remplir ton quiz en 10 questions afin de déterminer mon profil d'introverti plus. Tu me demandes à la question 4 ceci.
Tu assistes à une scène cocasse. Un homme complimente une jolie fille dans le métro. Selon toi... Réponse A, c'est plutôt osé, mais courageux de sa part.
Réponse B, police, c'est du harcèlement.
Réponse C, quelle honte, je plains vraiment ces pauvres filles.
J'hésite déjà en te répondre de façon cocasse que c'est du harcèlement ou simplement admirer le courage de ce sexagénaire à la retraite. Quoi, tu m'as dit d'imaginer, j'imagine. Ce dont je suis sûre, c'est que je ne vais pas plaindre ces pauvres filles, ces petites vénardes. Question 7, ça se corse.
Une fille très belle me lance des regards à une soirée. Réponse A. Aucune chance, elle est trop belle pour moi.
Réponse B. Elle a l'air de me trouver charmant, il faut que j'aille lui parler.
C. À mon avis, c'est juste un concours de circonstances si nos regards se sont croisés.
Réponse C. Sans hésiter. Je me sens déjà une future élève brillante en ayant appliqué la première règle que tu m'as donnée. Raisonner de façon intelligible et réfléchie. Tout comme toi, Quentin. Résultat du test, tu me dis...
Ah, je préfère être honnête avec toi. Tu es probablement touché par le syndrome du chic type. Une pathologie loin d'être bénigne.
Merde. Abasourdi par ce que je viens d'apprendre. J'espère à tout prix qu'un remède existe à mon stade terminal de chic type. Heureusement, quelques secondes après ma prière, tu apparais dans mes mails et tu n'en disparaîtras jamais, jusqu'à aujourd'hui, fidèle à ton élève que tu souhaites voir réussir. Enfin, je crois. Parce que Quentin, qu'on se l'avoue, plus j'avance dans tes newsletters, et plus j'ai l'impression d'être en couple avec un pervers narcissique. Parmi tes 45 mails, tu commences en douceur par ceci.
Hey, c'est Quentin. Je te félicite. Tu vas pouvoir visionner gratuitement ma nouvelle masterclass intitulée mes trois secrets, les mieux gardés, pour devenir plus rayonnant et susciter l'intérêt des femmes sans jamais faire le pitre. Donc, si tu es quelqu'un de plutôt introverti, c'est ta cam. Voici le lien pour y accéder. J'espère sincèrement que cette formation te sera aussi utile qu'à mes clients, à qui j'y donne accès. Attention, la vidéo a une durée de vie limitée à 48 heures. La raison ? Ce n'est vraiment pas pour t'embêter. Simplement pour t'empêcher de remettre ça encore à plus tard. Et que la vidéo rejoigne une to-do list interminable de choses que tu dois faire. Je te rassure tout de suite, on est tous façonnés pareil. Bref, tu es prévenu. Le lien disparaîtra demain soir. Clique sur le lien, ta formation offerte. Je crois en toi, Quentin GT.
Quentin, tu es cash et j'aime ça. Tu me dis tout de suite que ça va être ma cam et que bientôt, je vais exiger de nouveaux shots. Tu espères sincèrement pouvoir m'aider en limitant la vidéo à 48 heures pour mon bien, afin que j'évite de procrastiner sur comment pécho. Tu crois en moi et je crois en toi. Jusqu'à que je dépasse le délai des 48 heures et que, oh, ta vidéo est toujours disponible. Mais c'est probablement un bug ou un coup de chance, qui sait. Mais quel bonheur de pouvoir revisionner cette vidéo à l'infini. Je ne parlerai pas de son contenu, car c'est un secret. Inscrivez-vous pour en savoir plus. Dans ton second mail, tu ne taris pas d'éloges envers ma personne.
Tu es quelqu'un de très intéressant, quand on te connaît bien. Très cultivé et très attachant aussi. Tu as un univers attrayant, plein de choses à raconter. Et on peut dire que tu réussis ta vie professionnelle. À tel point que les gens qui te connaissent bien n'arrivent pas à comprendre que tu sois encore célibataire.
C'est vrai. Je réussis parfaitement ma vie professionnelle dans ma période de chômage actuelle. À tel point que même ma conseillère ne comprend pas comment je peux être encore à la recherche d'un emploi quand il me suffit de traverser la route. Tu vas même jusqu'à dire que je suis un diamant brut qui ne demande qu'à être mis en vente sur le marché de la femme. Tu me rappelles dans ton troisième mail, nos échanges à sens unique deviennent plus intenses qu'avec mon propre crush, que le lien vers ta vidéo va expirer à minuit pile et que ce n'est pas une blague. Très drôle Quentin, on y a tous cru. Il ne te faut pas plus longtemps qu'une petite semaine pour t'impatienter face à mon hésitation à l'engagement.
Tu penses la rencontrer où exactement, ton âme sœur? Tu penses qu'elle va tomber du ciel ou du paradis, sans rien avoir à faire pour la mettre dans tes filets? Une fille qui va correspondre en tout point à ce que tu recherches, qui saura voir immédiatement le vrai toi sans que tu aies à lever le petit doigt. Je veux rencontrer une fille qui m'aime pour moi et qui saura reconnaître immédiatement mes qualités. Tu te mets le doigt dans l'œil, jusqu'à l'os, avec cette utopie. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu veux rencontrer la bonne personne? Voici une info à laquelle tu ne t'attendais pas. Tu l'as déjà rencontrée. Elle est partout, dans plein d'endroits différents. Elle était assise à côté de toi, l'autre fois, dans le TGV. On te l'a présentée à un afterwork, jeudi dernier. Vous vous êtes croisés, l'autre jour, dans le bar. Elle était juste devant toi, dans la file d'attente du supermarché. Elle est partout, la fille de tes rêves. Pourquoi tu ne l'as pas encore rencontrée? Parce que tu n'es pas allé la voir. Parce que tes rencontres se font rares, vu que tu ne tentes jamais rien. Parce que tu ne fais pas l'effort de créer de l'alchimie avec les filles.
Parce que je suis une grosse merde. Merci Quentin pour tes encouragements. C'est vrai que la prochaine fois, j'irai aborder la nana au rayon navet du supermarché. Je termine par un mail dont l'intitulé m'éblouit. Ce que mon chihuahua m'a appris sur la masculinité.
Flashback, mars 2017, Paris 18e. Ma petite amie sonne à la porte de mon appartement. Elle tient dans sa main gauche un chiot vraiment adorable. La race, un chihuahua à poils longs. Sur le coup, j'ai immédiatement été renvoyée à mes vieux instincts de super mâle dur et fier à deux balles. Mais de quoi je vais avoir l'air avec ça, que je me suis dit. Je t'invite à regarder le reportage de 30 millions d'amis sur Belmondo et ses petits chiens. Je me suis totalement retrouvée. Un mec balèze avec un petit chien? Non merci. Tu as le droit de coller à certains critères de virilité. Passer du temps avec tes potes, faire de la musculation pour avoir du galbe, te laisser pousser la barbe histoire d'augmenter ton capital séduction et te sentir plus désirable. Il n'est pas toxique de boire des bières, les jambes un peu écartées, en parlant avec le plus de classe possible des petites coquines qui te tournent autour. Tu aurais tort de croire que les femmes n'aiment plus les hommes forts et masculins. Les meufs, justement. Ce n'est pas des créatures bien compliquées, quoi. Quoi qu'on en dise. Elles sont même assez prévisibles quand tu connais à minima comment elles fonctionnent.
Bref, qu'ai-je retenu de tout cela, Quentin, à part que je devais m'acheter un chihuahua et que les meufs ne sont pas bien compliquées, extrêmement prévisibles, sûrement comme un chihuahua. J'ai décidé entre le mail « Bye bye la friendzone », trois petits points, adieu, et « Alors, toujours pas de meuf ?» de quitter l'aventure avec toi. Merci pour tes efforts, merci pour ta patience, mais je pense que nous ne sommes pas compatibles. Je ne me fais pas de soucis pour toi, tu trouveras mieux que moi pour exceller dans tes compétences sociales. Je pourrais parler de ton Instagram à un autre monde qui s'est ouvert à moi avec des citations tout aussi profondes comme tu sais si bien le faire.
Ne lui tiens pas la porte pour coucher avec elle. Fais-le parce que tu es un vrai gentleman.
Fuyez les femmes extraverties.
Ta vie n'est pas à plaindre. Pense donc à celui qui sort avec ton ex.
Beaucoup de beaux conseils de vie, mais pas pour la mienne malheureusement. Et cet Instagram qui semble avoir compris ma douleur après cette rupture et qui me propose désormais une autre masterclass dans mon feed, non pas pour devenir le nouveau mâle, mais la nouvelle femelle. Cette déesse de l'élégance répond au doux nom d'Anabé et elle m'aborde frontalement, sans passer par quatre chemins, en me disant très simplement « 10 brutal elegance mistakes that you are making ». Traduction, 10 erreurs brutales en termes d'élégance que je fais. Une véritable claque dont nous reparlerons dans une prochaine chronique, car nous avons subi suffisamment de violence aujourd'hui de la part de nos compères, pour en plus subir celle de nos consoeurs. Les meufs, ne changez pas, restez prévisibles et pas compliqués. Les gars, changez rien non plus. Restez dans le calme et la solitude, loin des soirées bondées, pour mieux respecter les gestes barrières de la friendzone.
Thank you.
bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme l'a évoqué Mathilde, je viens me faire l'écho d'un livre intitulé « Le coût de la virilité », ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. C'est un essai qui est publié il y a bientôt un an aux éditions Anne Carrière. Il est écrit par Lucille Peytavin. Sa sortie en librairie, malgré la pandémie, n'a pas été confidentielle, ce dont on peut se réjouir. Lucille Peytavin a été invitée sur plusieurs plateaux télévision et continue de l'être, notamment sur Blast, une chaîne YouTube journalistique, où Salomé Sacquet l'avait invitée la semaine dernière, ce qui m'a permis de découvrir ce livre et son autrice. L'angle d'attaque de cette étude interpelle. En effet, la jeune chercheuse traite par l'économie les questions de genre. Il faut savoir que Lucille Peytavin est travaillée par les questions de genre depuis très longtemps. On le voit dans son parcours qu'elle explicite sur son propre site internet. C'est une historienne spécialisée dans le travail des artisans et des artisanes commerçants-commerçantes en milieu rural. Et elle est également membre du laboratoire de l'égalité. Donc elle a toujours milité et travaillé pour le droit des femmes. Lucille Peytavin veut s'attaquer par le biais de cette étude à l'éducation à la virilité des petits garçons. Il n'est pas question de faire un procès aux hommes, mais au virilisme, qui est une construction sociale qui n'a rien de naturel et qui a des conséquences désastreuses sur les femmes, mais sur les hommes également. La chercheuse débute son ouvrage par un rappel douloureux sur l'inégalité entre les hommes et les femmes dans divers domaines. C'est un rappel essentiel à mes yeux, parce que cette différence, on en a conscience, mais de le voir chiffré et sourcé par des instruments officiels et incontestables, ça permet de conscientiser ce qui est tu. Moi, je n'ai pas une appétence pour les chiffres du ministère en particulier. En revanche, lorsqu'ils sont tous aussi explicites, ça rend tout beaucoup plus limpide. Ces chiffres, on va en citer quelques-uns. Le grand exemple, aujourd'hui encore, en 2022 en France, 80% des tâches ménagères sont effectuées par des femmes. Ce chiffre est tiré de l'Observatoire des inégalités. Encore un exemple, un autre chiffre qui est rond aberrant, dans 70% des cas de divorce en France, les femmes récupèrent la garde des enfants, ce qui a tendance à faire baisser leur niveau de vie. Dans le monde du travail aujourd'hui, encore en France, l'écart des salaires des hommes et des femmes, si on prend en compte tous les types de contrats confondus, est de 25%. La conséquence concrète de cette différence, c'est que la retraite des femmes est inférieure. En moyenne, elle sera de 1 000 euros contre 1 600 euros environ pour un homme. Et enfin, les chiffres les plus affolants, il s'agit des féminicides. Lucille Peytavin affirme qu'aujourd'hui, en 2022, une femme meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. Ce que Lucille Peytavin couche noir sur blanc, c'est la surreprésentation des hommes en ce qui concerne les actes asociaux. Donc comme l'a dit Mathilde, la population carcérale en France est composée à 97% d'hommes, d'après les chiffres produits par les ministères de la Justice et de l'Intérieur. Et c'est notamment dans les types d'infractions les plus graves que les hommes sont surreprésentés. Quatre exemples, 86% des condamnés pour homicide sont des hommes, 97% des condamnés pour agression sexuelle sont des hommes, 99% des condamnés pour viol sont des hommes. L'écart statistique de condamnation entre les hommes et les femmes est abyssal. Alors la question évidente, c'est pourquoi ces infractions sont genrées à ce point. Lucille Peytavin dédie un chapitre entier à démonter le faux argument de la testostérone. Non, scientifiquement, nous le savons de manière très claire, cette hormone n'a rien à voir avec cette violence dont on parle, ou la virilité, déjà parce que les femmes aussi en produisent, et aussi c'est un mauvais réflexe d'associer finalement cette pauvre petite hormone à la virilité. Elle a juste un rôle important dans le développement musculaire et dans la pilosité, par exemple. Et je pense que c'est très important de parler scientifiquement. Et ce n'est pas pour rien, je pense, que la chercheuse en parle durant un chapitre entier. Parce que si ce n'est pas naturel, cette virilité, ça veut dire que l'enjeu, il est culturel, donc qu'on peut y faire quelque chose et que ça peut changer. Et ça, c'est essentiel à mon avis. D'ailleurs, elle conclut son essai sur le fait que le virilisme n'est pas une fatalité. Et ce message d'espoir, elle peut l'affirmer sans crainte, parce que, comme elle le dit à un moment, bon là je le récite un petit peu de mémoire, la solution je l'ai trouvée dans les chiffres, le comportement des femmes est en accord avec l'état de droit dans lequel on vit. Il faut donc éduquer nos petits garçons comme on éduque nos petites filles. Et en effet, on voit bien que les femmes, alors qu'elles sont plus exposées à la précarité, aux violences sexuelles, à la pauvreté, restent minoritaires dans les statistiques des actes asociaux. C'est important comme idée parce qu'on pourrait penser, et légitimement, surtout quand on croit à la lutte des classes, aux inégalités sociales, que quand on est dans un milieu violent depuis tout petit, exposé à la précarité, il y a quand même un déterminisme social qui joue, en plus des fortes inégalités sociales. Ce qui s'entend. Néanmoins, les femmes qui sont issues de ces milieux-là, elles restent sous-représentées dans la violence. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Dans des milieux riches, idem, les hommes sont surreprésentés dans les condamnations judiciaires. Mais Lucille Pailletavin explique aussi qu'il n'y a pas qu'une surreprésentation des hommes dans des comportements condamnables par la justice, mais aussi, et c'est là que le virilisme se retourne contre les hommes, dans des comportements à risque. Les comportements à risque, qu'est-ce que c'est ? La chercheuse explique que selon les dictats virils, pour montrer qu'on est fort, physiquement et moralement, on va prendre plus de risques. On va se mettre soi-même en danger, prouver sa valeur, en gros être une tête brûlée. Exemple, l'alcool. On va boire, les hommes boivent plus, il faut boire à outrage quand on est viril, toujours finir son verre, boire des alcools forts, conduire imprudemment, etc. Donc ce sont des comportements que les femmes font aussi, bien sûr. Mais les conséquences de tout ça, les cancers, les accidents de la route, etc., les hommes en sont majoritairement victimes dans les statistiques. 80% des cancers liés à l'alcool et au tabagisme touchent des hommes. Je fais le lien à ce moment avec une chose qu'avait dit Édouard Louis à la sortie d'un de ses livres. Il me semble que c'était « En finir avec Eddie Bellegueule ». Il expliquait que son père, qui est issu d'un milieu très populaire, a ingéré depuis toujours les codes de masculinité, comme par exemple le fait d'être indiscipliné à l'école, voire d'être un cancre, d'être l'élève dissident, parce qu'être premier de la classe, c'est déjà être aux yeux des autres garçons un petit peu efféminé. Et ça ressemble à de l'auto-sabotage. Je vais appeler ça comme ça. C'est double peine, parce qu'en plus du déterminisme social, le virilisme, ou les garçons en tout cas qui y croient, qui sont baignés dedans, s'empêchent aussi d'une certaine façon d'accéder à l'ascenseur social, on va dire. Et les hommes ont 3 fois plus de chances de mourir de manière prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans. Donc le propos de la chercheuse, en plus de coucher tous ces chiffres noir sur blanc, c'est surtout de montrer que tout cela a un coût. Par exemple, le budget de la justice en France est de 9 milliards par an. Dans ces 9 milliards, il y a évidemment toutes les payes, les salariés, etc. Mais il faut aussi, ça touche à la prison, les salaires des gardiens, les aménagements, tout ceci, mais aussi juridiquement, les traitements des dossiers, etc. Ce que Lucille Pailletavin a fait, c'est d'utiliser un outil de calcul qui s'appelle la valeur de la vie statistique. Et cet outil-là, il est utilisé par le gouvernement et les ministères pour chiffrer les budgets de l'État. Notamment, par exemple, on sait que d'un point de vue financier, grâce à cet outil, on peut calculer, par exemple, le coût d'un viol. On peut calculer le coût d'un homicide, etc. Et ce que la chercheuse a fait alors, c'est prendre cet outil utilisé par les politiques publiques pour calculer le différentiel. En fait, elle a pris l'ensemble du coût des comportements asociaux des hommes, elle a pris l'ensemble du coût des comportements asociaux des femmes et elle a fait le différentiel entre le coût de ces comportements. Le différentiel est de 95,2 milliards par an. Cette somme calcule les coûts directs, frais de justice, frais de santé, donc les hôpitaux, etc. Mais ce calcul, donc il y a le coût financier, voilà, chiffré exactement, mais ce que le calcul ne peut pas prendre en compte, qui est très dur à chiffrer, c'est la souffrance humaine qui est derrière et on a du mal à quantifier la dépression, l'alcoolisme, le deuil, la criminalité, le viol. On sait combien ça coûte, mais en souffrance humaine, on ne peut que, que le deviner quelque part, même si on le sait. Donc, elle ne fait pas que poser le problème, le chiffrer, le mesurer. Elle propose des solutions. Les solutions de la chercheuse sont, on peut s'en douter, ça commence à l'éducation, hein. C'est d'arrêter d'éduquer de manière différente les enfants. C'est d'acheter des poupons aux petits garçons pour qu'ils apprennent à prendre soin d'autrui, développer leur empathie, leur dire qu'ils ont le droit de pleurer, qu'ils fassent attention à leurs sentiments, qu'ils en parlent, et à moins développer leur violence, notamment. Mais bon, ça, il faut bien admettre que ça reste du domaine familial, intime. L'État ne peut pas vraiment mettre son nez dedans, ou alors... Bon, c'est très compliqué. En général, ça bloque parce que ça reste la famille, ça reste privé. En revanche, l'État peut mener des campagnes de sensibilisation dans les écoles, ce genre de choses. Bon, moi, j'y crois, pourquoi pas, mais j'y crois pas trop. Par contre, là où on peut faire un effort, c'est allouer un budget plus conséquent à la culture, puisque comme on l'a vu, le virilisme, l'enjeu, il est culturel, il n'est pas naturel. Donc, il faudrait mettre un plus gros budget dans la culture, parce que ça permet de gagner la bataille des idées, le développement des idées progressistes, puisque en dehors des institutions, c'est notamment par la culture que passent les idées patriarcales, et ce depuis très longtemps. Donc, par exemple, quand dans un film, le héros est un homme qui boit, qui fume, qui conduit des grosses voitures et qu'il doit user de la violence pour sauver la situation, le monde, sa famille, etc., ça légitime sa violence. Il est de son droit, de son héroïsme, de se mettre en danger pour ça. Et bon, c'est un exemple qui peut paraître caricatural, mais quand on voit les grands films qui sortent encore aujourd'hui, on est encore dans ces schémas-là, finalement. Donc, on va finir sur un point important, mais positif, c'est que les résultats, la solution est dans les chiffres. D'après la chercheuse, puisque les femmes sont sous-représentées dans la violence, elles vont les hommes comme des femmes, car leur comportement est beaucoup plus en accord avec l'état de droit dans lequel nous vivons. Ce n'est pas la loi du plus fort, donc forcément, ça marche mieux. Donc moi personnellement, je ne sais pas si cela suffirait à tout arranger. Néanmoins, c'est une piste de réflexion qui est vraiment très intéressante. Merci de m'avoir écouté. Si ça vous intéresse et que vous voulez fouiller un petit peu plus, parce que ça reste de l'économie et à entendre, c'est quand même un petit peu plus compliqué à digérer qu'à le voir, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à la chaîne YouTube Blast. Voilà, bonne journée.
Kick at your front door, how you gonna come? With your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law break in, how you gonna go? Shot down on the pavement or waiting on death raw. You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. Oh, the guns of Brixton. Money feels good, and your life, you like it well. But surely your time will come, as in heaven, as in hell. You see, he feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving. At the end of the hunter they come. You know, it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the Black Maria. Goodbye to the Brixton sun. You can crush us, you can bruise us, yeah, even shoot us. But oh, the guns of Brixton.
You can bruise us, yeah, even shoot us, but all the guns of Brixton shot down on the pavement, waiting in death row. This game's called surviving, as in hell, you can crush us. You have to answer to
présenter une lecture écrite d'un livre de Pauline de la Broala, paru aux éditions de Minuit en 2018. Pauline de la Broala est une autrice qui se bat notamment pour la PMA, la procréation médicalement assistée. Et je vais le lire avec Mathilde.
Une fête, un soir, un immeuble moderne, dans un appartement que je ne connais pas. 10e étage, tout en haut d'une tour sale. La cabine de l'ascenseur résonne déjà des boum-boum de la musique trop forte. Tout tremble, elle est trop maquillée comme d'habitude. C'est le début de l'été, elle porte une robe longue et rouge qui lui donne l'air bohémien. On ne nous entend pas lorsqu'on sonne une première fois. Elle garde son doigt appuyé sur le bouton de la sonnette jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la porte. À l'intérieur de l'appartement, des silhouettes dansent en rythme. C'est une fête où se trouvent certains de ses amis. Elle me présente, elle dit mon prénom, elle me tire par la main dans les différentes pièces. Elle me tend un verre, elle boit beaucoup. Elle me serre à chaque fois qu'elle se sert un verre. Très vite, elle est ivre, elle danse en relevant les cheveux. Elle me regarde dans les yeux, les pièces sont remplies. Il n'y a presque pas d'espace pour danser et il fait très chaud. Elle colle son corps au mien. Elle danse tout contre moi. Elle ne remarque pas mon désir fou, brûlant, douloureux. Elle ferme les yeux. Elle les ouvre. Elle me regarde. Elle danse, elle boit, elle danse, elle se serre contre moi. Sur le balcon, elle fume des cigarettes en parlant avec des gens que je ne connais pas. Elle a un geste inimitable pour faire tomber les cendres depuis le haut de la tour. Elle regarde au loin, les yeux ivres, les yeux fous, au-delà du canal de l'Ourcq qu'on aperçoit au pied de la tour. Elle entre à nouveau dans la fête, elle boit, elle danse. Dans la salle de bain, elle m'embrasse furieusement. Elle gémit sous mes caresses, dans les boum-boum qui n'en finissent pas. Tout tremble. Elle boit encore, elle a mal au cœur. Dans l'air chaud de la pleine nuit, sur le balcon, elle dit qu'elle veut rentrer. Elle s'accroche à mon bras, elle a du mal à marcher, elle est ivre, ivre morte. Aucun chauffeur de taxi n'accepte qu'on monte dans sa voiture. Dès qu'ils l'aperçoivent, ils disent que ça n'est pas possible. Elle rit, elle pleure, elle dit qu'elle va vomir. Elle s'appuie contre moi. Lorsqu'on arrive chez elle, elle se débarrasse de sa robe de bohémienne. Elle est nue en dessous, entièrement nue. Elle vomit pendant de longues minutes, son corps secoué de convulsions, son front dans ma paume. Elle rit ensuite, de soulagement. Elle se couche après avoir pris une douche. Elle dit qu'elle est...
désolée, désolée, désolée.
Qu'elle a...
tout gâché.
qu'elle comprendra si jamais je la quitte.
Après ce qui vient de se passer.
Elle n'a rien compris. À mes yeux, elle est encore plus désirable qu'avant.
Elle vouait une véritable passion aux voitures lorsqu'elle était adolescente. Elle connaissait un nombre incroyable de modèles différents. Elle avait un amour spécial pour les modèles de chez Renault. Elle adorait la R5, mais elle aimait beaucoup aussi la Renault 25 et surtout la Renault 21. Qu'elle estimait moins grandiloquente et sentencieuse que la 25 et qu'elle trouvait particulièrement moderne. Son modèle préféré était sans conteste l'Alpine A110, proche de la voiture de course. Elle sait compter à toute vitesse. Elle est extrêmement forte en calcul mental. Elle a une orthographe quasi parfaite. Elle s'entête tout de même à mettre un accent circonflexe sur le O du mot « idiome ». Elle n'a pas peur de grand-chose, mais elle a deux grandes phobies importantes. Les papillons de nuit et les statues. Toutes les statues. Elle ne peut pas rester dans une pièce où se trouve un papillon de nuit. Elle dit qu'elle déteste leur côté imprévisible, qu'elle ne sait jamais où ils vont voler, qu'ils sont ondoyants, déroutants, versatiles. Pour les statues, elle tremble à l'idée qu'elles s'animent soudainement, que de mortes, elles deviennent vivantes.
Elle est aussi belle que les nues de Bonnard. Elle est aussi rose et jaune que ses roses et jaunes à lui, aussi émouvante que les femmes qu'il peint, aussi délicate et fragile. Elle pourrait être mon modèle si je savais peindre. Elle poserait pour moi, dans toutes sortes de lumières différentes. Elle serait toujours plus belle que sur le tableau précédent. Elle serait la femme idéale, la femme ténébreuse et splendide, une icône.
Elle regarde la cicatrice sur mon corps, laissée par la césarienne. Elle ne me dit rien. Suit du doigt la ligne blanche, juste au-dessus de mes poils sombres et épais. Elle essuie mes larmes de son autre main. Elle murmure qu'elle me trouve belle. Elle ne sait pas que ça ne me console pas, que je voudrais avoir une beauté à la hauteur de la sienne, un destin à la hauteur du sien. Elle ressemble à un personnage de roman. Elle ne se rend pas compte que c'est douloureux pour les autres qui l'entourent. Elle est vivante.
Elle rit de plaisir lorsqu'elle comprend que je lui ai menti, que l'on ne va pas au théâtre, mais à la gare de Lyon pour prendre un train pour Marseille. Elle me demande depuis combien de temps je prépare cette surprise. Elle veut savoir tous les détails. Comprendre comment j'ai fait pour m'organiser, pour prévenir le quatuor, et puis sa famille avec qui elle devait fêter Pâques. À Marseille, le temps s'étire à l'infini. Elle jouit plusieurs fois le même matin. Elle serre fort ma main quand je l'emmène nous promener dans mes endroits préférés, de la vieille Charité au rocher de Malmousque. Elle se baigne en culotte dans l'eau glacée d'avril. Elle a un sourire jusqu'aux oreilles et les tétons qui pointent. Le dernier jour, elle me gifle. Une gifle précise, retentissante, qui me fait tourner la tête. Elle ne s'aperçoit pas que nous sommes rue Consola.
Avec l'enfant, elles sortent alors que je dors encore. Elles achètent les premières asperges et les premières fraises. Elle dit « Fais un vœu, ma chérie », lorsque j'emporte une à ma bouche. Elle n'imagine pas que je fais le vœu que tout ça s'arrête, enfin. Son inconstance, ses caprices, ses folies, sa folie. Elle n'imagine pas à quel point j'ai besoin d'être consolée.
Pour fêter le premier anniversaire de son audace, de son aveu qui avait déchiré l'air du mois de mars, elle m'offre un voyage à Venise. Le train de nuit est annulé, elle dit qu'à cela ne tienne, et elle nous réserve deux places dans un avion à la dernière minute. Elle trouve toujours des solutions. Elle navigue sur la houle de la vie avec un entrain qui force l'admiration. La vie et le monde doivent tourner comme ça l'arrange, selon son désir tout-puissant. Elle est vivante.
Dans le train qui nous ramène de Venise, entre Grenoble et Paris, elle ferme le verrou de notre compartiment et se déshabille lentement, sans un mot. Elle s'offre à moi, effarante de beauté, les cuisses ouvertes sur son sexe humide du petit matin. Le rideau de la fenêtre ouvert sur la campagne humide du petit matin qui défile dans un brouillard de verre.
Elle aime me lire des romans à haute voix. Elle mime les différents personnages en prenant des voix différentes. Elle agite les bras pour faire les dialogues. Elle ne maîtrise aucune cuisson au four, malgré de nombreux efforts. Elle dit « Allez au cinoche, allez à la pistoche. » Elle dit « Partoche » pour parler de ses partitions. « Où est cette partoche de Brahms ? J'ai égaré la partoche du 132 de Beethoven. Tu aurais vu ma partoche du Schubert ?» Elle perd souvent les choses, les retrouve, les égare à nouveau.
Elle m'emmène à la philharmonie, écouter des sonates de Schubert. Elle glisse sa main dans la mienne lorsque l'émotion est trop forte. Elle ouvre les yeux, le matin, et me fixe intensément en me disant qu'il faut arrêter cette histoire, que ça va la tuer. Elle m'emmène au théâtre de la ville, voir un spectacle de Pina Bausch. Elle applaudit à tout rompre et hurle.
« Bravo !»
En direction des danseurs et des danseuses, debout. Pendant longtemps, elle vocifère.
« Bravo, bravo !»
À ses côtés, je suis rouge de honte et de fierté mêlée. Au cinéma, les lumières se rallument. Elle est un drôle de miroir. Son visage, tuméfié par les larmes, fait face à mon visage, tuméfié par les larmes. Elle dit « Nous avons les cœurs qui battent à la même cadence. » Elle dit
« C'est fou cet unisson. C'est fou cette communion. »
Elle dit
« Personne ne peut comprendre ça. »
Personne.
Elle me téléphone au milieu de la nuit. Elle pleure toutes les larmes de son corps. Elle dit « Ça suffit. » Elle n'entend pas que moi, au bout du fil, je m'étouffe dans mes larmes, que je suffoque, ivre de chagrin, que j'ai mal dans tout le corps tant c'est impossible d'imaginer la vie sans elle. Elle me frappe. Et ma joue garde longtemps la trace rouge de ses doigts étalés sur ma peau blanche. Elle dit qu'elle préfère qu'on se sépare. Mais elle arrive, dans l'heure qui suit, avec le programme de la nouvelle saison de notre théâtre préféré. Elle souhaite qu'on réserve des tas de spectacles pour l'année à venir. Elle fait des projets. Elle est gaie comme un pinson.
Elle veut qu'on aille au cinéma. Elle veut qu'on fasse l'amour. Elle veut qu'on s'endorme ensuite dans les bras l'une de l'autre. Elle veut qu'on arrête de s'écrire. Et de se parler pendant quelques jours. Elle veut qu'on mange japonais. Elle veut qu'on parte en week-end à la campagne pour se reposer. Elle veut que j'arrête de pleurer. Elle veut aller à une fête sans moi. Elle veut ne pas avoir de responsabilité. Elle veut être légère. Elle veut être libre.
Thank you.
en profite pour dire qu'avec le master de création littéraire du Mirail, on organisera une rencontre avec Pauline Delabroix à l'Arc, dont vous venez d'entendre quelques extraits. Ce sera le 31 mars à la médiathèque du Grand Thème. Et ce sera l'occasion de lui poser des questions autour de son texte, de la création et de son combat notamment pour le droit à la GPA. Avant de terminer cette émission, un petit mot pour dire que hier soir, c'était la soirée d'ouverture de la Gougnotte, le nouveau bar bienveillant, féministe, culturel et queer de Toulouse, situé dans le quartier Saint-Cyprien. On vous quitte sur un petit coup de gueule de Fée et Justine, deux auditrices qui étaient présentes hier à la Gougnotte, et qui disent, je cite... On veut des playlists à nous, des playlists lesbiennes et pas une récupération des playlists gays. Supprimer Céline Dion et Britney. Par contre, on garde Beyoncé. Merci à Fée et Justine pour ces mots de la fin. Et sur ces belles paroles, on vous dit à la semaine prochaine.